Le Grand Dialogue.
Sigi Kanfoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmondi.
Chenne Berry. Sigi Kanfoba.
Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce forum de la presse. Le nouveau président français est à Gao pour une visite dans le camp de l'armée française. Dans le même temps, dans la région de Kidal, un couple a été lapidé il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a un retour des islamistes donc au Mali? Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de paix de l'ONU, était en visite au Mali cette semaine. Il a exhorté le gouvernement à accélérer le DDR. La grève de l'enseignement est suspendue. Les examens pourront donc se tenir au Mali. Nos invités pour faire le point de l'actualité de cette semaine sont Boubacar Sidiki Haïdara du journal du Mali, Boubacar Païtaou, il est lui du journal L'Indépendant, Paul Ben qui est journaliste indépendant, Lévi Dougnon des Échos. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Salim Louara.
Le Grand Dialogue.
Dimanche dernier, donc le 14 mai, Emmanuel Macron est investi président de la République française. Pour sa première visite africaine, il a donc choisi le Mali. Il est à Gao depuis ce matin. Paul Ben, vous êtes journaliste indépendant. Quel est le symbole de cette visite du tout nouveau président français déjà?
Bonjour à tous les auditeurs du studio Tamani. Moi, je crois que le président Macron fait dans la continuité. Il reprend un peu le flambeau que François Hollande lui a passé, parce que c'est son élève, on l'a toujours dit. Cette visite, je crois que politiquement, pour Macron, je crois que c'est une bonne chose.
Est-ce que c'est un étalage un peu de ce qu'ils appellent un peu le succès de l'armée française, hein?
Succès, on doit le mettre entre guillemets, surtout avec Barkhane. Avec Serval, ça, ils sont partis vraiment au charbon. Mais avec Barkhane, c'est en demi-teinte. Je l'ai toujours dit ici, avec 4000 hommes sur 5 pays, c'est du saupoudrage. On a 1600 au Mali, et 3400. Si vous voyez un peu les zones que Barkhane couvre, c'est des zones qui sont vraiment très chaudes. Et là où il n'y a pas seulement que le banditisme, il y a le narcotrafic, il y a le terrorisme, je crois que c'est du saupoudrage. Donc je disais que Macron est au Mali pour un peu faire dans la continuité, et je crois que son voyage vraiment ne nous apportera pas grand chose, parce qu'il y a une ligne de conduite que Barkhane s'est faite depuis que la force est là, et je ne crois pas que ça va changer grand chose.
Merci. Boubacar Sidiki Haïdara du journal du Mali. Il y a une partie de l'opinion qui fustige ce voyage, puisque Emmanuel Macron ne viendra pas à Bamako, directement à Gao. Qu'est-ce que vous en pensez?
Disons que c'est plus du convenu, parce que c'est d'abord un voyage express, puisqu'il le fait en pratiquement 7 heures de temps, et il n'est pas le premier président à le faire. Hollande aussi, il est allé à Gao, donc j'imagine maintenant pour voir les troupes,
mais
il fallait...
Pour un président fraîchement élu, quand même. Le symbole est fort.
Le symbole est fort, certes. Je comprends qu'il y a des personnes qui peuvent fustiger son attitude, mais le fait est que le président, il est allé déjà pour le rencontrer à Gao, donc je pense que ça atténue un petit peu la situation. Maintenant, le fait, on peut toujours débattre de la question, mais moi je pense qu'il n'y a pas lieu à faire un véritable débat dessus. Il a fait son choix, le président l'a accepté, ils sont allés à Gao.
C'est une bonne guerre, non?
Cette bonne guerre, oui. Je dis que cette bonne guerre. Du moment que le président, il était d'accord pour aller le recevoir à Gao, bon, je pense pas qu'il avait la latitude de refuser non plus. Ça aurait été un geste qui aurait été mal compris. Donc maintenant qu'ils sont à Gao tous les deux, je pense que ils discutent d'autres choses que du plan militaire, parce qu'il n'est pas qu'avec ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Il est aussi venu avec le président de l'AFD, l'Agence française pour le développement. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont un petit peu changer de stratégie, parce qu'ils voient que sur le plan militaire, ça ne va pas tout résoudre. Donc il veut peut-être mettre un petit peu aussi l'accent sur le plan de développement pour juguler un petit peu l'essor des djihadistes dans la région.
Merci Boubacar Païtaou de l'Indépendant. Est-ce que Emmanuel Macron va changer quoi que ce soit dans la politique française vis-à-vis du Mali et de l'Afrique en général?
Donc merci. Et je crois que l'arrivée de Macron directement à Gao c'est un signal fort, c'est pour montrer à tout le monde que la politique de la France ne va pas changer. C'est-à-dire que la politique, ce qu'on a connu sous Hollande, c'est la même politique qui va continuer. Maintenant, la deuxième chose que je retiens, c'est que la France aujourd'hui, qu'on le veut ou non, la France est dirigée par l'armée. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quand aujourd'hui j'ai suivi son point de presse, il dit que le jour de son investiture, il est parti rendre visite aux militaires blessés. Et maintenant, sa deuxième visite qu'il juge importante, c'est à Gao. Maintenant, ce que moi
on
je.
Peut pas, on ne peut pas.
Sa
première visite déjà hors du pays.
Hors du pays.
Il avait une importance capitale. Hein.
Oui, à Gao, et il est venu rendre visite aux militaires. Voilà, donc ça c'est important. Il est venu voir les militaires français. Donc maintenant, ce que moi contrairement à mon confrère, moi je ne peux pas. Le président de la République du Mali, à chaque fois qu'il sera à Gao, moi quand même, à moi, à ma souvenance, il est parti dans la valise des autres chefs d'État. Bon, c'est ce que moi je trouve déplorable dans un pays que le président de la République Ibeka ne se déplace pas à Gao. Il est oublié à chaque fois qu'il se rend à Gao et il est dans la valise d'un autre chef d'État. Vraiment, ça c'est déplorable. Je crois que même pour le Malien lambda, ça heurte un peu notre fierté. Et je crois que c'est ce que je retiens fondamentalement de cette visite.
Alors, je rappelle que le chef de l'État était à Gao quand il y a eu ces fameux attentats contre le MOC, éventuellement il y a encore quelques mois. Lévi Dougnon, est-ce qu'on peut espérer un peu la fin de cette crise politico-sécuritaire avec ce tout nouveau président français?
Ok, bonsoir tout le monde. Et personnellement, pour répondre tout net, je n'y crois pas que cette crise va si tôt finir. Parce que la politique appliquée par la France, surtout cette continuité avec Macron, quand vous voyez le gouvernement constitué par Macron, vous verrez des très proches de Hollande qui sont toujours autour de lui. Et c'est pour moi, c'est une façon de le cadrer et puis de faire la continuité. Et de cette façon, je ne vois pas une sortie de crise si tôt.
Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de rupture quand même avec l'ancien système quand on voit Madame le ministre de la Défense de la France qui vient fraîchement en poste, une nouvelle tête déjà?
Non, je n'y crois pas forcément parce que si vous voyez l'ex-ministre de la Défense, Yves Le Drian, il fait partie...
Qui va aux affaires étrangères.
Justement, qui va, mais il avait une partie du dossier quand même, parce que c'est lui qui gérait l'armée française, que ce soit en France ou en dehors. Donc, je pense que lui, il va beaucoup peser dans le domaine d'informer Macron ou sa successeur dans le cadre de la politique au Mali. Et vous savez que Macron avait le choix de soit partir en Afghanistan, soit le Mali. Il a préféré venir au Mali. Bon, ça a son importance, mais je ne crois pas que fondamentalement, les lignes vont bouger, quoi.
Alors, Paul Ben, qu'est-ce que vous reprochez très exactement à cette force Barkhane qui, on se souvient, il y a encore le mois dernier, a effectué cette très grosse opération Panga qui s'est soldée finalement par la mort d'une vingtaine de terroristes?
Moi, ce que je reproche à Barkhane, ce que j'ai toujours fait, c'est un peu le manque de suivi, de rigueur dans ce qu'ils font. Je ne dis pas que quand ils interviennent, par exemple, dans la vallée de Taralit ou bien dans Mateta, ils ne le font pas avec la manière. Mais le problème, c'est le suivi.
Ils ont quand même des résultats concrets sur le terrain.
Oui, mais vous savez, par exemple, de la frontière du Burkina à celle du Niger, ça fait à peu près 3200 kilomètres. Barkhane a souvent fait des incursions dans la forêt de Tinabao, c'est-à-dire vers le côté de Menaka à la frontière avec le Niger, mais c'est pour 1 heure, 2 heures de temps. Et en 2 heures, 3 heures de temps, vous n'allez pas vraiment frapper fort de telle sorte que ces terroristes, ces bandits puissent vraiment soient vraiment décampés, parce que vous savez, tout. Par exemple, moi, je connais très bien la zone de Menaka. Toutes les incursions qui se font au Niger viennent du Mali. La dernière fois à Yuru, où on a enlevé des véhicules nigériens, mais ils sont venus directement ils sont venus vers l'abbé, l'Abzanga. Et jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé ces gens. Et chaque fois qu'ils frappent vers la région de Tawa, ils se replient vers Tinabao, ou bien Ishinalan, vers la région de Melaka. Donc, il faut que ça soit appuyé. Et je ne suis pas militaire, mais j'ai quand même quelques notions en la matière. Vous ne pouvez pas contrôler 5 pays si vastes avec 4000 personnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si vous avez une centaine de drones, ce n'est pas possible. Donc ce que Barkhane fait, moi jusqu'à présent je le dis, c'est du saupoudrage. La France a voulu maintenir militairement son pied en Afrique, pas seulement au Mali mais en Afrique, avec la force Barkhane, mais ils sont mal pris. Parce que Serval, en 2013, on a vu le travail de Serval. Les gens de Serval sont partis au front, ils sont partis au choc, au contact avec ces personnes. Nous aujourd'hui, moi par exemple, j'ai souvent échangé avec les gens de Barkhane, mais je leur dis, écoutez, à tels endroits précis, il y a telle sorte de personnes, il y a tel nombre de personnes. Mais souvent j'ai des réponses politiques, des militaires qui me donnent des réponses politiques. Franchement, c'est ce que je reproche à Barkhane.
Merci Boubacar Sidiki Aïdara. Est-ce que la sécurité de la sous-région, hein, de la bande du Sahel, incombe à Barkhane seul? On a nos armées galiennes, mais est-ce qu'il y a une franche collaboration, par exemple dans le cas du Mali, entre Barkhane, la MINUSMA, l'armée malienne et parfois ces groupes armés sur le terrain? Parce qu'il y a tellement d'hommes en armes qu'on se demande comment il peut y avoir une telle prolifération de terrorisme dans le pays.
Je suis assez d'accord avec ce que dit M. Ben. Barkhane pourrait mieux faire. Et ce n'est pas avec 4000 hommes qu'on peut contrôler toute cette zone-là qui est assez vaste, qui est assez large. Alors Macron, dans son allocution d'aujourd'hui, il a dit que les pays européens font déjà beaucoup, mais qu'ils peuvent mieux faire encore, surtout l'Allemagne.
Justement, dans le même temps, qu'est-ce que nous on fait concrètement sur le terrain? Quelle est l'efficacité intrinsèque de notre armée? Quelle est l'efficacité justement de ces groupes armés sur le terrain, que ce soit la plateforme ou la CMA?
Alors, je pense qu'il n'y a qu'à Menaka où que ça marche un peu. Parce que là, il y a les forces qui se sont mises ensemble, que ce soit au niveau des hommes de Moussa Achara Toumane, du général Gamou et tout. Ils se sont mis ensemble et avec l'armée, ils ont mis en place un laboratoire qui fonctionne assez. Donc, ce n'est pas le cas dans les autres régions, certes, mais à Menaka, ça peut être un exemple qui peut servir aux autres. Je conçois que ça soit difficile de le faire partout. Mais je pense qu'avec un petit peu de volonté, ça pourrait aller. Alors, on parle de la force du G5 Sahel. Il y a beaucoup de discussions autour. Pour l'instant, c'est encore à l'état de discussion. On dit qu'il y a les forces qui vont être mises en place et tout. Et il y a apparemment un mandat qui les a été donné, mais on n'a pas plus de précision sur le mandat qui les a été conféré. Est-ce que ce sera le même mandat que celui de la MINUSMA? Si c'est le même mandat que celui de la MINUSMA, moi je pense que ça sera un fourre-tout et que ça ne servira pratiquement à rien. Mais
cette force du G5 justement qui tarde à se mettre en place, on a parlé d'une force tripartite Mali-Niger-Burkina d'ailleurs qui n'a toujours pas vu le jour.
Oui, et c'est vrai que on est en droit de se penser pourquoi une telle lenteur dans tout. Mise en œuvre de l'accord, il y a une lenteur. Mise en œuvre de tout ce qu'il y a ici actuellement, il y a une certaine lenteur dans tout. Alors, il y a Macron qui est là. Il dit qu'il va insuffler un souffle nouveau parce qu'apparemment, il veut participer personnellement à ces réunions du G5 Sahel. Alors, je ne sais pas si ça va apporter un quelconque changement ou pas. On espère. Et je pense que, disons que si la force du G5 Sahel s'allie à la force Barkhane et tout, Ça peut avoir un certain impact. En tout cas, on l'espère. Je l'espère personnellement.
Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio
Tamani. Merci de rester connecté donc au studio Tamani. Vous suivez le forum de la presse. Nous recevons Boubacar Sidiki Aïdara du journal du Mali, Boubacar Païtao de l'Indépendant, Paul Ben, journaliste indépendant, Lévi Dounion des Échos. Un autre thème à présent, on a vu, hein, est-ce le retour des islamistes au Mali? Une femme et un homme ont été lapidés dans la région de Kidal par des islamistes qui leur reprochaient de vivre en concubinage en violation avec la loi musulmane. C'est la première fois depuis 2012 que des faits de ce genre sont donc signalés au Mali. Boubacar Païtao, est-ce qu'on peut dire que c'est le retour justement de l'extrémisme violent dans cette partie du pays?
Moi, je dis tout simplement Quand vous dites le retour, ça veut dire que j'étais parti, ils sont revenus. J'ai été constant par rapport à cette position. C'est-à-dire que les islamistes ne sont jamais partis. Ils sont toujours là, tapis dans l'ombre. C'est comme je l'ai dit, c'est un système de vase communicant. Quand ça les arrange, ils sont séparatistes. Quand ça les arrange, ils sont islamistes. Donc, moi, je ne vois pas fondamentalement de différence entre ces différents groupes. C'est-à-dire qu'ils sont les terroristes. Ne sont jamais repartis. Peut-être qu'ils ont changé de veste selon les circonstances. Et aujourd'hui, que les conditions sont favorables, maintenant ils reviennent. Voilà, donc ils sont jamais repartis.
Ça ne vous étonne pas qu'il y ait cette.
Ça ne m'étonne pas parce que, en fait, c'est ça. Parce que c'est ce que on a tout le temps dénoncé. Cette situation de Kidal qui, de jour en jour, échappe même ceux qui encouragent. C'est-à-dire que je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, mais ça, la situation commence à échapper, même ceux qui encouragent cela. Parce que nous, on a tout le temps dit que, c'est-à-dire que ces groupes HUA, CIMA, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un système de vase communicant. Selon que ça les arrange, ils se positionnent. Maintenant, si les conditions sont favorables de l'autre côté, maintenant, ils changent de veste. Ça a tout le temps été comme cela. Donc moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Et je crois que si on n'agit pas rapidement, voilà, c'est le début vraiment d'un système qu'on a vécu depuis 2012. Et voilà.
Merci. On a recueilli les propos d'un élu local, puisque c'est pas que dans le nord du pays où ça va mal. Il y a également le centre du pays, dans la région de Ségou ou Mopti, et de Mopti, où ces réseaux-là s'installent de plus en plus. On écoute cet élu local qui a souhaité garder l'anonymat.
Dans tout le cercle, ils font régner leurs lois presque sauf à Ténékou. Ils font les jugements, ils tranchent au niveau des villages notamment. Tous les litiges, pratiquement, ce sont eux qui règlent ça maintenant. À Diafraté, ils sont venus notamment enlever un féticheur. Ils disent que ceux qui ne cadrent pas avec la religion. Ils l'ont emporté. Ils sont venus notamment jusque chez lui, l'enlever. Bon, ils n'ont pas commencé à couper, ils n'ont pas commencé à fouiller à ce que je cherche. En séance, tenante séance publique, ils convoquent les belligérants avec leurs témoins et tout, ils les écoutent devant un caddie et ils tranchent. Quand ils tranchent, c'est sans arrière-pensée et sans appel.
Merci Lévi Dugnon, vous avez vécu longtemps dans le centre du pays, alors le centre du pays où ça ne va pas, ce tenu local, on l'a interrogé, il est du centre du pays, parfois ce sont les populations qui appelleraient d'ailleurs ces extrémistes religieux pour venir trancher les litiges face à cette énorme absence de l'État dans la zone.
Oui, effectivement, l'absence de l'État et puis la justice qui est mal données dans ces zones font que les populations n'ont pas d'autres recours. Si vous rencontrez certaines personnes, vous les demandez, ils disent « Ah non, parce qu'il n'y a pas de justice, parce que la justice est mal tranchée, parce que, vous savez, c'est une zone inondée. Donc, les populations sont très souvent des éleveurs. Et il y a cette gestion du bourgou qui pose problème et qui a été très souvent mal tranché. Et aussi la traversée des bœufs. Donc tout cela constitue... Vous savez, pendant très longtemps, la zone de Mopti a été une poudrière, un condensé de problèmes, de justice, de l'absence de l'État et pas mal d'autres problèmes. Et ces problèmes ont été très souvent mal gérés et ou mal accompagné par l'État. Ce qui fait que, bon, les gens se sont retournés contre l'État, il faut le dire, c'est certain, parce qu'ils pensent que l'État n'arrive plus à faire leur affaire. Et finalement, ils ont ouvert les bras aux islamistes, aux djihadistes.
Alors, on parle, les Peuls sont très souvent fustigés dans cette région. Les Peuls sont accusés d'être des djihadistes dans la région. Or, on voit de plus en plus qu'il y a des katibas, comme Paetao aime bien le dire, Bozo, Dogon et d'autres.
Oui, moi j'ai été toujours contre ce communautarisme ou d'indexer une communauté par rapport à ce problème. J'ai été toujours contre cette position-là. Je pense que il n'y a pas que les Peuls.
et ces djihadistes ou ces islamistes, il y a les Bouzous, il y a les Dougouans, il y a les Peuls, il y a les Bambara. Donc ce n'est pas que les Peuls. Maintenant, peut-être le problème qui se pose, c'est des antécédents que souvent les Peuls et d'autres communautés sont en train de régler. Vous voyez, très souvent vous voyez que soit des Peuls ont des problèmes de pâturage avec des autochtones sur place, et pendant très longtemps ces problèmes ont été mal gérés, soit par les autorités locales, le préfet et autres, la justice. Donc c'est des gens qui arrivent maintenant, vu le vide qui est là, l'absence de l'État, qui essaye de régler les comptes passés, qui essaye quand même de régler la justice en leur manière.
Merci, Lévi Dounian. Paul Ben, cette lapidation au niveau de Kidal, justement, de la région de Kidal, intervient juste quelques jours avant l'arrivée de Macron. Est-ce que c'est un message de ces islamistes-là pour dire qu'on est là encore, on existe?
Bon, moi, je ne ferai pas de liaison entre cette lapidation et l'arrivée de Macron. Parce que le problème, au fait, moi je suis le problème depuis quelques semaines à Tangalit. J'ai été alerté il y a une dizaine de jours parce que le monsieur et la dame n'ont pas été pris le même jour et lapidés le même jour. Ils ont été pris, jugés.
Séparément.
Jugés, ils ont été pris séparément, jugés. Parce que ce que l'information ne révèle pas, c'est qu'ils ont conçu un bébé. Et le bébé a été assassiné. Ce que l'information n'a pas... Ils n'ont pas révélé cette information, peut-être c'est par pudeur ou quoi, mais le bébé a été assassiné. Donc le monsieur et la dame ont été arrêtés séparément, jugés, gardés d'abord, puis lapidés. Et la zone de Tangalit, c'est comprise entre Tessalit et Agelhok. C'est la zone par excellence, c'est le fief des islamistes. C'est là où vous trouvez la fameuse vallée d'Amatetaï, où les Français, le Serval a intervenu en 2013 très fortement. Vous ne verrez pas ce genre d'agissement, par exemple, dans le cercle de Tessalit. Ce n'est pas possible. Ou même dans le cercle de Kidal. C'est dans cette zone-là que vous verrez des agissements de ce genre. Et c'est le fief de Yadagali que tout le monde connaît. Donc, moi, je crois que c'est des poches comme ça qu'il y a, par exemple, dans la région de Kidal, qu'on peut trouver dans la région de Mopti, de Ségou, et même un peu plus au sud. Ces gens-là sont là, ils existent, comme mes confrères l'ont dit. Ils sont là, ils existent. Ceux qui fréquentent la zone le savent. Nous, on le sait, par exemple. Moi, personnellement, je le sais. Je sais qu'ils sont là. Maintenant, vous savez, je l'ai toujours dit aux Français, surtout aux gens de Barkhane, c'est pas parce que mon cousin est islamiste que moi je le suis. C'est pas parce que j'ai échangé au téléphone avec mon frère qui est islamiste qu'on va venir m'arrêter, parce que c'est ce qui s'est passé à un certain moment, qu'on va venir m'arrêter pour me taxer d'islamiste. Sinon, ces gens-là, ils sont là, ils existent, mais ils font partie de la population. Maintenant, on peut utiliser ce qui n'est pas facile, et ce qu'on n'a peut-être pas encore fait, on peut utiliser des gens qu'on appelle républicains ou qui sont modérés pour essayer de convaincre ces derniers de sortir de cette... De ce cycle de violence.
Merci Paul Ben. Boubacar Sidiki Aïdara du Journal du Mali. Alors, au risque de me répéter, dans cette zone justement particulièrement du pays, on a toutes les forces réunies, Barkhane, la MINUSMA, la CMA, la plateforme et parfois les FAMA qui opèrent dans ces zones-là. Comment est-ce que de tels actes peuvent encore être perpétrés? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un regain, un retour en puissance justement des islamistes dans le pays?
Oui, mais excusez-moi, je voudrais que vous précisiez un peu. Vous parlez de la zone de Kidal ou bien du centre?
De la zone de Kidal.
Oui, parce que les FAMA n'existent pas à Kidal. Dans la zone de Kidal, les FAMA n'existe pas. Il y avait un petit contingent de 45 personnes qui étaient cantonnées dans le camp de Tessalit, qui ne sortaient même pas, qui étaient interdits de sortie. ils sont toujours là-bas.
Ah bah voilà,
donc, ils sont toujours là-bas, mais ils ne sortent pas. Ils sont interdits de sortir. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas à 7 km du camp, là où la ville se trouve, de Tessalit. Ils sont au camp d'Amachache. Donc, dans la zone de Kidal, l'armée malienne n'existe pas. Les islamistes ont chassé la MINUSMA des routes. Ils ne circulent plus par route. Barkhane non plus.
Alors, ce qui sous-entend justement que les islamistes ont encore une certaine puissance, arriver à interdire l'armée malienne, Barkhane et la MINUSMA de circuler, c'est quand même un peu grotesque.
Ils sont actifs, c'est clair, et ils connaissent bien la zone, ce qui est un atout pour eux par rapport à tous ceux qui sont là. Alors, ce matin, il y a une journaliste, une de nos consoeurs, qui a posé une question à Macron, comme quoi, quand est-ce qu'il va faire en sorte que l'armée malienne revienne à Kidal. Alors la question, il l'a éludé, il n'a pas vraiment répondu. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer actuellement. Kidal, disons que c'est une zone de non-contrôle pour le moment. C'est aux mains des djihadistes. Il y a même le président de l'autorité intérimaire qui est en place maintenant, qui est un ancien de la rébellion, qui a dit que lui, il n'a rien contre la charia. Que maintenant, ce qu'il n'aime pas, c'est la manière dont Iyad Agali veut l'amener. Et c'est un cousin d'Iyad aussi. Donc, quand il y a des personnes comme ça qui doivent avoir une certaine autorité, on dit quand même président de l'autorité intérimaire, qui ont des déclarations de la sorte, alors je me dis que franchement à Kidal actuellement je vois pas d'où pourrait venir la solution pour le moment. Les djihadistes, ils sont encore là, ils sont toujours là. Ils recrutent à tout va des personnes parce qu'il y a encore de la misère qui est là-bas. Et il y a justement Macron aussi qui disait que le terrorisme se nourrit par la misère. Et du moment qu'il y a de la misère, qu'il y a des gens qui sont là, qui ont besoin d'argent, ils peuvent être facilement malléables. Et c'est à chaque fois on peut entendre qu'il y a des opérations, qu'il y a des djihadistes qui ont été tués, mais à chaque fois il y a de nouvelles personnes qui sont recrutées. Ils ont de nouvelles techniques d'attaque à chaque fois. Donc, ce qui fait que c'est assez dur de les appréhender, de pouvoir les mettre un coup, quoi. Et c'est pas qu'à Kidal, même dans le centre du Mali c'est pareil. On n'arrive pas à les appréhender. Comme il le disait, avec la force Serval, c'était encore mieux. Parce qu'à l'époque, il y a certains chefs djihadistes qui ont été tués, mais là actuellement on ne les trouve même pas. Ils peuvent se permettre de faire des vidéos, de faire ce qu'ils veulent. On ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Ils font les attaques quand ils le veulent. Donc, pour le moment, je ne vois pas trop.
Merci. Boubacar Paytao du journal L'Indépendant. Il l'a dit tout à l'heure, l'autre Boubacar Edara. Quand le président des autorités intérimaires de Kidal fait un peu l'apologie justement de la charia.
Bon, est-ce qu'il a fait l'apologie de la charia? Mais il dit qu'il n'a rien contre.
Est-ce que ça repose encore ce problème justement de négocier avec.
Mais pourtant, nous on l'a toujours dit. C'est-à-dire que on a négocié avec des groupes armés, mais oublié ou encore écarté. C'est-à-dire que des acteurs importants dans ce processus, qui est particulièrement Iyad Agali. Aujourd'hui, Iyad Agali montre
qu'il
à qui veut l'entendre.
Qui n'est pas tout seul, on a Amadou Koufa également.
Oui, mais maintenant, c'est des acteurs importants dans ce processus de recherche de la paix. Maintenant, moi, je voudrais réagir par rapport à une question, c'est-à-dire que relative à Barkhane. On peut pas toujours se permettre d'accuser Barkhane, parce que il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que Barkhane est là, Barkhane a des priorités, la MINUSMA a des priorités, il faut que l'État malien aussi dévoile ses priorités. C'est-à-dire que nous, on n'est pas obligé, c'est-à-dire que Barkhane n'est pas obligé de d'avoir les mêmes priorités que l'État malien. C'est-à-dire qu'il faut que cela soit très clair. Si dans ce chaos ou encore dans ce bourbier, Barkhane parvient à faire ses affaires, mais Barkhane n'a aucun intérêt à se mêler dans des trucs de communautarisme entre. Bon, moi je ne vois pas, parce que aujourd'hui nous on veut avoir la solution par les autres. Ça, c'est il faut qu'on soit clair. La solution ne viendra jamais des autres. C'est-à-dire que nous, le gouvernement malien, le Mali, doit dévoiler ses priorités. Voici, moi, mes priorités. Maintenant, quitte à lui de chercher les voies et moyens pour convaincre les autres, maintenant, à cheminer dans ce... voilà. Mais maintenant, par rapport au, soit à l'autre question de, que mon cousin a répondu, c'est-à-dire que la question du terrorisme et de l'islamisme, ce n'est pas seulement une communauté. Quand qu'on attribue à une communauté, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Moi, je connais des villages constitués de 100% de bozos. Aujourd'hui, on ne peut même pas discuter, échanger sur le thème du terrorisme par riche. C'est-à-dire qu'on a peur des représailles. Parce que quand tu abordes la question avec ton frère, mon père, ma mère, tu ne sais pas sa position. Peut-être il va te dénoncer et tu risqueras de te faire tuer en brousse. Ça, c'est un village 100% bozo. Donc, juste, c'est pour vous dire que, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attribuer la question à une communauté.
Donc, ce n'est pas donc une question d'ethnie, en gros. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani, sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Vous suivez le forum de la presse avec les confrères Boubacar Sidiki Aïdara du Journal du Mali, Boubacar Païtao de l'Indépendant, Paul Ben, journaliste indépendant, et Lévi Dougnon des Échos. Une autre visite au Mali, celle de Jean-Pierre Lacroix. Jean-Pierre Lacroix, qui est le nouveau chef des opérations de maintien de la paix, qui a effectué une visite de 2 jours dans la semaine. Il a parlé entre autres de renouvellement du mandat et a exhorté à une accélération du processus DDR qui était d'ailleurs annoncé pour le 15 mai dernier. Alors, Lévi Dougnon, que faut-il faire déjà pour rendre ce mandat des Nations Unies plus offensif qu'il ne l'est, puisque les Nations Unies parlent de mandat qui ne leur permet pas de lutter contre le terrorisme. Et comme quelqu'un aime bien le dire, les terroristes ont quand même mandat pour les attaquer.
Tout à fait. Moi, je pense que sa visite au Mali, c'était juste une prise de contact après son prédécesseur. Il est venu juste voir les éléments de l'ONU qui sont au Mali, l'aménagement, et échanger, peut-être s'imprégner et de s'informer par rapport à des situations. Mais de là à dire que, bon, ils vont prendre des résolutions ou bien des engagements qui pourront élargir ou
rendre le mandat plus offensif.
Voilà, ça, j'en doute beaucoup. J'en doute, franchement, j'en doute beaucoup.
Est-ce que cette visite a un autre symbole particulier, hein, après Hervé Latsou, Jean-Pierre Lacroix qui vient au Mali?
Oui, c'est un symbole.
Il a entre autres parlé d'accélération du DDR, hein, qu'il faudrait rapidement mettre en route.
Oui, est-ce que...
C'est juste un discours politique?
Oui, parce que ce genre de discours, on l'a beaucoup entendu. Hein, depuis le début de la crise malienne, chaque fois, ça vient. Et puis, bon, sur le terrain, on constate que ça ne bouge pas. Bon, voilà, je ne trouve pas franchement que ça va beaucoup modifier leur position.
Paul Ben, par rapport justement au mandat, est-ce qu'on peut le rendre plus offensif qu'il ne l'est? On est déjà sous chapitre 7. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement changer?
Oui, moi je crois que c'est là même où le bas blesse. Parce que la MINUSMA, avec tous les moyens qu'ils ont déployés sur le terrain, les militaires continuent de nous tenir le langage des politiques. C'est-à-dire, ce que M. Anadif devait dire, ce sont les militaires qui le disent. J'ai rencontré un peu le général sénégalais qui coiffe un peu toutes les troupes militaires de la MINUSMA. Il a tenu un langage politique.
C'est-à-dire,
vous savez, le langage politique, le militaire parle avec les armes. Quand on dit, par exemple, à Kidal, on dit aux groupes armés de dégager. Mais quand les politiques disent aux groupes armés de dégager, mais c'est les militaires qui doivent l'appliquer. Mais quand les militaires continuent à négocier, à parler, c'est pas ça le travail des militaires. Le travail des militaires, c'est d'exécuter les décisions des politiques. Et c'est pourquoi je dis que les militaires continuent à parler le langage des politiques. Et comment est-ce qu'on peut renforcer? On nous a dit ici plusieurs fois que bon, l'amusement avait besoin de drones, il avait besoin de ceci, de cela. Moi qui suis constamment sur le terrain, moi je vous dis aujourd'hui, et je le dis et je le répète et je le soutiens, il n'y a pas, c'est-à-dire, de différence entre ce que Barkhane a, ou bien ce que les Allemands ont, et ce que la MINUSMA a. La MINUSMA a tout ce que ses forces ont. Tout. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont une ligne de conduite. Ils ont commencé à nous bombarder de discours politiques, force d'interposition, force de régulation, force de ceci, de cela. Mais là, l'amusement s'est réduit à être une compagnie de transport. Transporte tout ce que vous voulez comme personne. Ils sont devenus des projets. Maintenant, ils font plus dans le développement. C'est bien, ils construisent des écoles maintenant à Kidal, mais nous, le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est la sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est que la musique, c'est ce qui manque à la musique.
Boubacar Sidiki Aïdara, est-ce que si on résout justement certains problèmes de développement dans ces zones-là, il n'y aurait pas moins d'attaques? Parce que le problème fondamental, hein, d'ailleurs, les raisons principales pour lesquelles il y a eu cette rébellion au Nord, c'était surtout des questions de développement. Hein.
Monsieur Diagne, avant qu'il nous réponde, je crois que la MUSMA, quand même, ne va pas construire les routes. Ça, allez-y. La MUSMA ne va pas construire les routes. Parce que si vous construisez la route, vous avez fait 60% du boulot dans le domaine de développement. Mais la MUSMA ne va pas le faire. Allez-y.
Disons que c'est surtout une question d'interprétation. Parce que je ne les vois pas aller au-delà faire de grandes actions d'infrastructure, quoi. De grandes actions de développement. C'est surtout des effets d'annonce et qu'ils veulent mettre dans la presse, quoi. On te dit qu'on a distribué des sacs de riz, on a fait ceci, on a fait cela. C'est surtout des effets d'annonce. Et c'est pas des actions qui auront une certaine portée dans le temps. Moi, c'est mon avis. Alors, moi, je pense que la mission principale, c'est la sécurisation. Et là, ils n'arrivent même pas à la tenir. Parce que à chaque fois, on entend qu'il y a eu des attaques. Et eux-mêmes, ils se font attaquer. Il y a les populations civiles qui se font attaquer. Il y a beaucoup de personnes qui se font attaquer. Donc, la mission principale qu'ils ont, ils n'arrivent même pas à la tenir. Et il y a plusieurs personnes qui sont là, qui doivent tenir cette mission. Parce qu'il y a plus de 10 000 éléments qui sont déployés ici au Mali. Ils ont les moyens pour le faire, mais ils ne le font pas. Alors, je ne pense pas que ce soit ce qu'ils vont nous annoncer toujours, parce que je suis d'accord avec M. Ben, c'est surtout des discours politiques. Parce que la MINUSMA, on dirait que ce n'est pas une force militaire, mais c'est surtout une force politique qui est déployée ici. Ils parlent beaucoup, mais après, on ne voit pratiquement rien.
Merci, justement, Boubacar Paetao. Est-ce que si on arrive au DDR, hein, si on arrive à tenir justement ce DDR-là, est-ce que ça ne va pas faire baisser les fréquences d'attaque qu'il y a dans le pays?
Voilà, maintenant, avant de répondre à votre question, je crois que je vais revenir sur un de mes propos. C'est-à-dire, il faudrait que nous comprenions qu'on n'a pas la même priorité que ceci. Que cela soit très clair. C'est-à-dire que la sécurisation de notre pays, là, revient aux Maliens, uniquement aux Maliens. C'est à nous de se donner les moyens pour sécuriser notre pays. Et je me rappelle très bien, hein, c'est-à-dire que nos militaires, nos policiers et autres, là, faisant tout, c'est-à-dire que faisaient tout ici pour faire partir, c'est-à-dire que pour participer à ces missions-là à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a de l'argent, ils vont pour leur business. Ceci aussi vient pour leur business, ils n'ont pas la même priorité. Maintenant, pour revenir à votre question, nous on l'a tout le temps dit ici, hein, c'est-à-dire que ce processus de DDR, il fallait commencer par ça. C'est-à-dire qu'à partir du DDR, on saura qui doit prendre des armes sur cette partie du territoire malien.
Vous pensez éventuellement moi, que ça va faire baisser les fréquences d'attaque?
Oui, parce que à partir du moment où on va faire le processus de DDR, c'est-à-dire qu'on va cantonner les groupes armés, maintenant on va dire que à partir de cet instant, qui et qui doit porter les armes sur cette partie. C'est ça aussi un peu la particularité. Donc je crois que ça va baisser beaucoup, c'est-à-dire que les attaques. Maintenant, si tu ne fais pas partie de ce lot-là, si on te voit avec les armes, ça veut dire que tu es un bandit et voilà, on te neutralise.
Merci. On va aller directement au dernier chapitre de l'Évêque d'Union. Je ne vais pas vous laisser vous prononcer sur cette question. Il semble que le ministre Aguerlaf ait réussi son baptême de feu, comme le titre de plusieurs journaux de la place, après la suspension donc de la grève de chez les signataires de l'accord du 15 octobre 2016. Ce sont les enseignants du Nord qui reprennent justement le chemin des classes après 3 mois de grève, mais est-ce que l'année peut être sauvée aujourd'hui avec tout ce retard accusé?
Oui, l'année peut être sauvée parce que si on se donne les moyens de sauver l'année, c'est possible qu'on...
Mais à quel prix?
Ah oui, ça ne va pas être facile, mais je pense que c'est bien possible, parce que cette, entre parenthèses, petite crise a été pas négligée, mais on a laissé la crise s'étendre pendant très longtemps. Donc nous sommes face à cette conséquence, mais je pense qu'on peut revenir et gérer l'année, sauver l'année, c'est bien possible.
On a vu la grève des magistrats, la grève du secteur de
oui,
la santé.
Tout est parti
on
de a là, vu parce que quand les magistrats ont eu gain de cause, brusquement tout le monde s'est levé parce que nous sommes en fin de mandat. Vous savez, en fin de mandat, c'est le front social se bouillonne. Tout le monde se lève parce que tout le monde se dit que il va partir. Bon, c'est un moyen de lui tordre la main, etc., etc. Donc de là, tout le monde se lève. Maintenant, vous voyez le front social. Et tout le monde s'élève, tout le monde est revendiqué et tout le monde a gain de cause, et finalement.
Paul Ben, est-ce que la même question que je vous ai posée, je pense, la dernière fois que vous étiez là, est-ce que le gouvernement a réellement les moyens de satisfaire toutes ces revendications du Front social aujourd'hui?
Moi je l'ai dit la dernière fois aussi, il y a des revendications qui ressemblent à un travail où on vous demande de casser une montagne avec une cuillère, quoi. Il y a des revendications vraiment qui ne sont pas légitimes, vraiment. Parce que je reconnais que vraiment l'administration ne fait pas, l'État ne fait pas assez d'efforts pour, par exemple, réduire son train de vie. Je l'ai dit, quand vous êtes chef de famille, si vous voulez que vos enfants suivent votre exemple, il faut être exemplaire vous-même. Vous réduisez le train de vie de l'État, vous réduisez les ministères, les fonctionnements des ministères, vous montrez l'exemple à ceux qui vous demandent quelque chose. Là, peut-être, ces derniers seront censés dire que, bon, écoutez, le pays a montré, l'État a montré un exemple, donc nous allons... Sinon, le Mali n'a pas les moyens aujourd'hui de satisfaire à ces revendications. On va continuer à s'endetter à coup des milliards. Et bon, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont déjà payer la dette, l'ardoise que l'administration va nous laisser. Et si ça continue comme ça, ça va être très, très dur.
Boubacar Sidiki Aïdara, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Paul Ben quand il dit que l'État est un train de vie très élevé? Mais j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux ces deux jours-ci que la France, qui a plus de 60 millions d'habitants, s'en sort avec une vingtaine de ministres, le Mali avec environ 15 millions d'habitants à plus de 30 ministres.
Bon, disons que comparer les deux nations n'est pas vraiment la meilleure des choses, parce que ce n'est pas que la France. La plupart des grands États dans ce monde n'ont pas beaucoup de ministères.
Le Ghana en a 104. Hein?
Oh, ça je ne le savais pas. Ça fait beaucoup.
Donc, disons l'Espagne qui a fait pratiquement 2 ans sans gouvernement.
Oui, c'est vrai.
Mais est-ce que les modèles de gestion, est-ce que c'est de bonne guerre, Boubacar Païtaou, justement, d'aller dans la comparaison quand on voit l'espace qui a géré déjà et les problèmes qui ne sont pas les mêmes? Est-ce que c'est réaliste d'aller dans la comparaison?
La comparaison n'est pas forcément raison. C'est-à-dire que comparer le Mali à la France, je crois que c'est pas le... Maintenant, c'est-à-dire que la comparaison qui peut un peu tenir ça, c'est quand on essaie de comparer le Mali avec des pays de la sous-région, c'est-à-dire qui ont presque les mêmes caractéristiques, presque les mêmes populations, par exemple le Mali, le Niger, le Burkina.
Et qui ont presque les mêmes tailles de gouvernement.
Voilà, donc je crois que cette comparaison, ça peut, voilà, ça tient un peu, mais la comparaison avec la France, je crois que on n'a pas les mêmes politiques, c'est-à-dire que les mêmes parcours démocratiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes mentalités. Je crois que la comparaison.
Mais tout juste deux secondes. Moi, ce qu'on peut dire, moi je dis que franchement, je trouve vraiment bizarre certains ministères. Les noms de certains ministères, je les trouve bizarres et je les trouve vraiment inutiles. Franchement.
Exemple.
Par exemple, on a scindé le ministère de l'administration, on l'a scindé en 3 parties. Il y a un ministère dont je ne retiens pas jusqu'à présent le nom. On dirait que c'est un ministère qui est là pour récolter les impôts. Franchement, je ne sais pas. Voilà, et tout de ce genre. Donc, franchement.
Un dernier mot.
Oui, bon, maintenant, pour rebondir sur les propos de Ben, et dire que le gouvernement n'a pas les moyens, moi, je ne peux pas comprendre que le gouvernement malien n'a pas les moyens de faire face à ces revendications. Seulement, il y a de ce qu'on appelle la mauvaise gestion.
Merci. Merci, merci madame, merci monsieur d'avoir suivi cette émission. Boubacar Paitao, merci. Merci à Boubacar Sidiki Aïdara. Paul Ben, merci. Lévi d'Union également. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi cette émission qui est une réalisation de Aliou Sidibé. Salim Diouara a assuré la mise en onde. Mamadou Ouattara, la régie vidéo. Vous pouvez réagir hein, au Grand Dialogue à travers notre répondeur. C'est au 75 84 11 11 et au 75 84 12 12. Merci.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mandé.
Chienne Berry.